Ce week-end, Pascal, où les autorités craignent un nouveau relâchement des consignes de confinement qui va, côté témoignage, qui va peut-être vous faire réfléchir à deux fois, si vous êtes tenté d'abuser du droit de sortie. C'est celui du docteur Royan. Pendant 3 ans, elle a été médecin généraliste, notamment au service, au centre de santé de prévention, le Phare, à Mont-de-Marsan. Donc, début 2020, pour des raisons personnelles, elle a décidé de repartir vivre et travailler dans sa région d'origine, l'Alsace en l'occurrence, plus largement le Grand Est. Et elle a donc quitté Mont-de-Marsan pour Strasbourg, c'était le 1er mars dernier. Et dès le lendemain, on découvrait qu'une trentaine de personnes avaient été contaminées par le virus après avoir participé à un rassemblement évangélique à Mulhouse. On a eu des petits problèmes de liaison ce matin, j'espère qu'elle est là avec nous au téléphone. Docteur Royan, bonjour, rebonjour.
Bonjour, bonjour Radio MDM, bonjour Mont-de-Marsan.
Rebonjour, jusqu'ici tout va bien, j'espère que ça va fonctionner. Merci en tout cas de prendre quelques minutes sur votre premier jour de repos depuis combien de temps?
Là, ça va bien faire 15 jours, 3 semaines sans relâche. C'est vrai que ça a été une période assez dense.
Avant de parler du message que vous vouliez aussi, qu'on voulait relayer aux Hollandais, comment se sont déroulés, vous arrivez le 1er mars et dès le lendemain, vous vous retrouvez carrément au cœur du réacteur, les premières heures, les premiers jours dans les services, avec le chaos qu'on a imaginé mais que vous avez vécu.
Alors, ça a été toute une réorganisation qui s'est faite dans la hâte, hein, comme vous pouvez imaginer. Ou plutôt, comme vous ne pouvez pas imaginer, puisque la chance qu'a eu le Sud-Ouest, c'est d'avoir cette crise un peu en décalé et d'avoir ce temps qui est vraiment précieux, en fait. Hein, c'est précieux pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir briefer les équipes, pour pouvoir préparer aussi mentalement les soignants et aussi la population. Et je pense que c'est ce temps précieux dont on a manqué, puisqu'on a dû faire face à l'événement un peu brut de pomme. Donc, tout le monde a fait un petit peu avec les moyens du bord. Les plans blancs ont été déclenchés dans les différents établissements. Tout le monde a travaillé vraiment dur. Les cadres de santé, les directeurs hospitaliers, les médecins, les soignants, tous confondus. Donc, ça a été... quand on parlait un petit peu de situation de guerre, je pense que c'est un peu comme ça qu'on l'a tous vécu. Toutes nos organisations de services ont été revues du jour au lendemain. Nos emplois du temps, donc ça a été vraiment très compliqué, assez stressogène aussi à vivre pour nous, puisque on n'a pas eu le temps en fait de s'y préparer du tout. Il n'y a aucune préparation ni mentale ni physique à ce qui nous est tombé dessus. Voilà.
C'est quasiment du jour au lendemain, le nombre de personnes arrivées explosées, des personnes qu'il a fallu très rapidement amener en réanimation, il a fallu s'adapter très vite.
Alors, il y a la réanimation, bien sûr, hein, dont on parle beaucoup. Puis, il y a aussi les services de médecine, hein, dont on parle peut-être un peu moins. Mais il y a aussi des personnes qui deviennent ce qu'on appelle oxygéno-requérantes, c'est-à-dire qui ont besoin d'oxygène. Alors, pas forcément pour des durées très longues, pour 2, 3, 4, 5 jours, mais qui, cet oxygène ne se trouve bien sûr pas partout, hormis dans les services hospitaliers. Donc, ces personnes ont aussi besoin d'être à l'hôpital. Donc, ça, on en parle un peu moins. Ouais. Mais ça nécessite aussi des soignants à leur chevet. Ça nécessite aussi des lits. Ça nécessite des chambres seules. Tout ça, c'est une organisation très complexe dans un système de soins qui était déjà sur le fil du rasoir. Donc, c'est sûr que ça a été un défi, vraiment un défi.
Nous ne sommes pas des héros, nous sommes des soldats sans armes. C'est Sylvie Crozier, il y a quelques jours, qui disait ça sur BFM TV. Elle est la responsable des urgences de la Salpêtrière à Paris. Là, récemment, je viens de voir une aide-soignante de Belfort qui a contaminé son mari, qui est décédé dans un EHPAD. On va en reparler de la situation des EHPAD. Vous, sur place, pour ce qui est des moyens qui sont mis à votre service, quand je parle de moyens, je pense bien sûr à tout ce qui est masques, gants par exemple. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe encore?
Alors, c'est sûr que je vais parler de ce que je connais, hein, parce que tous les services ne sont pas équivalents. Donc moi, je travaille en secteur Covid depuis le début de cette crise, donc vraiment un secteur qui est étiqueté. Donc on a des moyens, bien que c'est vrai qu'on compte les heures pendant lesquelles on garde notre masque, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le changer avant les 4 heures. La demi-journée, ce sont des masques, les FFP2, ce sont des masques qui durent 8 heures, mais avant la fin de la demi-journée, donc avant qu'on aille nous déjeuner, on ne peut pas les changer. Donc c'est vrai qu'on hésite un peu, c'est des choses bêtes, mais à boire de l'eau, à s'arrêter pour enlever le masque, pour prendre un verre d'eau, voilà, par exemple, c'est des choses auxquelles on ne réfléchit pas avant. Mais là, on y réfléchit parce qu'on sait très bien que le masque, on ne va pas pouvoir en avoir deux dans la matinée. Voilà, après, il y a d'autres services qui ont ont été plus affectés par ce manque de matériel. Il y a aussi mes confrères donc, qui sont médecins généralistes hein, en ville, qui eux n'ont pas eu le temps de voir cette crise venir, qui n'étaient pas forcément, qui n'avaient pas le matériel adéquat. Voilà, donc puis tous les soignants au sens large, hein, donc les aides-soignantes, les ASH qui font aussi partie de cette grande famille hospitalière et qui n'étaient pas forcément munis du même matériel que nous en secteur Covid étiqueté. Donc c'est sûr que voilà, il y a eu des failles au début. Il y en a peut-être un tout petit peu moins maintenant parce que bah, les hôpitaux sont attentifs, notamment dans les secteurs Covid étiquetés, à bien munir le personnel. Voilà, mais c'est sûr qu'on sent qu'il y a une tension autour de cette question du matériel et on la sent au quotidien. Elle n'est pas, on l'a toujours, hein, comme je vous disais, hein, on compte quand même le nombre de masques par jour, par personnel. Hein, c'est pas, ça, c'est quelque chose de réel.
Docteur Royan, vous m'avez confié, même, enfin, je peux le dire, que vous aviez voilà, une suspicion de Covid, que vous avez continué à travailler, qu'il y a des gens autour de vous, voilà, du personnel soignant qui est clairement contaminé. Vous, par exemple, vous rentriez aussi chez vous, vous avez une vie de famille, vous rameniez un potentiel virus aussi à la maison.
Alors voilà, ben c'est le côté des soignants dont on parle pas, mais les soignants aussi ont une vie à côté. Et c'est vrai que donc moi, pour des raisons personnelles, j'avais donc ma maman qui est une personne d'un certain âge à mes côtés. Et donc il a fallu qu'on prenne des décisions parce que j'étais très très exposée. Alors quand on dit des signes, j'ai pas forcément des signes, mais une rhinite parfois, la petite rhinite saisonnière qui peut venir se confondre à la rhinite du Covid parce que ben, ça se ressemble. Alors c'est sûr que ben, on va dire dans le doute, ben, j'ai préféré m'abstenir d'avoir donc ma maman à côté de moi. Donc on l'a en fait isolée dans une chambre étudiante à quelques centaines de mètres de là où j'habite. Et donc nous ne nous voyons plus depuis que je travaille en secteur Covid. Donc c'est sûr que ça amène à des décisions dans notre vie privée. On sait en fait qu'à aller sur le terrain, pour aider les gens, on risque nous-mêmes de desservir les gens qui nous sont proches. Donc ça, c'est quelque chose de très particulier, c'est un dilemme très particulier. Je pense ne pas être la seule du tout à l'avoir. Voilà, j'ai aussi des collègues qui ont des conjoints ou des conjointeux qui ont des maladies chroniques et qui, du coup, bah, ont été amenés à prendre les mêmes décisions que moi par rapport à leur conjoint, à s'isoler dans leur chambre quand ils rentrent. Enfin, voilà, c'est des choses dont on parle peu, mais voilà, ça survient aussi dans nos vies privées. Donc, le confinement, il est valable pour nous aussi. C'est-à-dire que nous aussi, on confine nos familles, nous aussi, on fait attention, nous aussi, on s'interdit de voir nos proches par peur de les contaminer. Enfin, voilà, c'est des choses, ce ne sont pas des décisions que pour la population générale. On fait aussi partie de la population générale, mais on y a aussi droit et on fait attention de la même manière.
La situation, elle s'est stabilisée, mais ça a l'air très très fragile. Qu'est-ce que vous avez ressenti il y a encore quelques jours, enfin les premiers jours en tout cas de la crise, lorsque notamment vous avez vu vos confrères médecins, puisqu'on est en guerre, on va dire, tomber au front. Il y en a eu plusieurs depuis. Il y a récemment eu aussi une aide-soignante en début de semaine dans un EHPAD à Mulhouse. Est-ce que là vous vous êtes dit, mais là vraiment, la situation est en train de nous échapper complètement?
Alors, elle nous échappe, je veux dire, ce sentiment de la situation qui nous échappe, on le ressent un peu tous les jours, puisque ne serait-ce que par le côté inconnu de ce virus, il y a des choses qu'on commence à connaître, mais je pense qu'il y a encore une grande part de zones d'ombre qu'on n'a pas encore éclairci. Donc rien que ça, c'est très inhabituel, en tout cas pour ma génération. Hein, notamment, nous, on n'a pas connu le VIH. Tous ceux qui ont connu le VIH savent ce que c'est, un virus avec une zone d'ombre. Nous, on n'a pas connu. Donc rien que ça, c'est déjà une épreuve, on va dire. L'autre chose, c'est de ne plus avoir les référents, parce qu'on avait toujours des médecins seniors, des gens qui pouvaient nous conseiller sur des conduites à tenir, que là, on n'a pas, puisque tout le monde est vierge, peut-être un peu moins les médecins chinois qui sont un peu plus avancés que nous là-dessus, mais tout le monde est vierge, en fait, de cette connaissance-là. Donc ça, c'est un petit peu, effectivement, hein, c'est stressogène. Et puis, quand vous dites tomber, alors oui, alors il y a tomber, il y a les décès, bien sûr, puis il y a le côté morbidité. La morbidité, c'est-à-dire la maladie. Il y en a aussi beaucoup qui ont été malades, c'est-à-dire qui ont été hospitalisés brièvement, qui vont bien maintenant, mais qui ont eu une vingtaine de jours où ils n'étaient vraiment pas bien. Alors oui, ça fait peur. Le premier sentiment, c'est la peur. Je ne vais pas vous dire que je vais travailler tranquille tous les matins. Hein. C'est peut-être, oui, un peu la crainte, l'anxiété. C'est sûr qu'on est anxieux.
J'en arrive justement à l'objet aussi de cet appel. On le disait, bon là, il y a un plateau manifestement qui commence à s'installer, mais ça a l'air tellement fragile, tellement instable et imprévisible. Le Grand Est, il y a une proximité culturelle, régionale, qui a fait qu'il y a pu avoir une certaine discipline, peut-être, dans l'appel au confinement, un respect des consignes qui ont permis, peut-être, d'éviter un cataclysme dans des villes, par exemple, comme Strasbourg ou même à Mulhouse. Je rappelle le bilan début de semaine, on était à plus de 2000 morts. Est-ce que si cette même vague, elle s'était abattue dans une région comme la nôtre, les Landes, au regard de nos spécificités à nous, le soleil, les apéros, les promenades, le côté latin de vivre dehors, tout ce que vous avez découvert en 3 ans vivant à Mont-de-Marsan, si cette vague s'était abattu chez nous, est-ce qu'on on peut imaginer un jeu de massacre que pour l'instant on a évité?
Ce que vous dites, ça existe aussi à Strasbourg, hein, les terrasses, la vie dehors, la vie nocturne. C'est une ville très étudiante, donc les étudiants, ils vivent dans des tout petits appartements, donc ils adorent vivre la nuit, ils adorent sortir le jour. Enfin, les salles de sport sont pleines, les bords de l'île et du Rhin aussi. Enfin voilà, je veux dire, quand je suis arrivée au mois de mars, c'était le début des beaux jours. On a été soumis à peu près aux mêmes pressions, on va dire. Je pense que ce qui a fait la différence au-delà de cette discipline dont vous parlez, c'est que, comme je vous disais un peu en off, c'est qu'il n'y a pas une seule personne autour de moi qui n'ait pas eu un proche, très proche, c'est-à-dire un conjoint, un compagnon, un parent, un grand-parent, qui ait été touché, soit mortellement, soit pas mortellement, mais en tout cas touché par la maladie. Donc ça, je pense que c'est la grande différence. Tant que les choses sont loin de nous, on a l'impression qu'elles sont très loin. Quand le virus était en Chine, oh, c'était la Chine. Quand il était en Italie, il est dans le Grand Est. Mais oui, mais c'est l'Est. Non, enfin, je pense que le message, c'est que, en fait, ça peut passer du jour au lendemain. On a été la preuve ici, Grand Est, hein, c'est que du jour au lendemain, on a vu une région se transformer, nos hôpitaux se transformer, nos patients se transformer. Ça a été assez brutal. Donc ça peut arriver à n'importe quel département. Ça ne prévient pas. Et c'est justement la particularité de ces virus très contagieux. C'est que ça ne prévient pas. Donc oui, bien sûr qu'il pourrait y avoir une vague. Je vous la souhaite la plus tardive, je vous la souhaite également inexistante, mais pour que ça arrive, c'est-à-dire qu'elle soit inexistante, les mesures barrières doivent être appliquées. Alors les mesures barrières, on est bien d'accord, hein, c'est le masque, c'est les distances de sécurité, c'est le lavage des mains, c'est quand on est dans une maison et qu'on a quelqu'un de malade dans la maison, c'est avoir une chambre à part, c'est ne pas aller dans les espaces de vie communs, c'est des choses qui paraissent très, presque trop drastiques quand je vous le dis, mais elles sont essentielles. Tant que toute la population n'est pas masquée, et je vous rappelle, ça a été une recommandation hein, de l'Académie française de médecine, et tant que ça n'est pas appliqué, alors on n'aura que le confinement comme solution. C'est clair. Donc, puisque vous aurez toujours quelqu'un dans la rue qui ne sera pas masqué, ou vous-même qui n'êtes pas masqué, donc les mesures barrières seront vaines, en fait. Elles n'existeront pas. Donc, il faut absolument se confiner, puisque c'est actuellement la solution dont on dispose pour faire en sorte que la contagiosité, qu'on rompe la chaîne de la contagiosité. Ça, c'est une évidence.
Le message, en quelque sorte, c'est que on peut dire dans les Landes, je prends vraiment des pincettes, on a la chance de ne pas vivre ce que vous vivez dans le Grand Est, c'est de ne pas forcer ça, cette chance, justement, et d'appliquer toutes les consignes en restant confiné, même si on imagine, voilà, vous connaissez bien le quartier du Pays Roite, vous avez travaillé avec le centre de santé dans des immeubles, dans des quartiers politiques de la ville. On peut être évidemment tenté, c'est légitime de sortir, mais il faut penser à des... Ben vous, tout simplement, qui êtes sur le front.
Bien sûr, hein, donc moi j'habite, si ça peut rassurer les gens, entre guillemets, ou du moins faire un parallèle, moi j'habite ici aussi à Strasbourg maintenant dans un appartement, hein, donc puisque dans les grandes villes, vous savez, on n'a pas de maison avec jardin, donc j'habite moi-même dans un appartement, pas très loin du CHU où je travaille, et de la gare pour aller à Mulhouse, puisque je travaille à mi-temps à Mulhouse, donc je comprends que ça soit difficile, mais ça n'est pas impossible. Donc il faut essayer de se trouver un planning, de se trouver des activités et puis surtout de se rappeler pourquoi on le fait. Ça, c'est important aussi parce que ben, on oublie, hein, on oublie vite, on a une mémoire à court terme. Et ben, si nous, dans le Grand Est, on peut être là pour rappeler aussi sans dramaturgie, sans trop d'emphase non plus. Oui. Le but, c'est pas non plus de traumatiser, mais c'est de dire la vérité, de dire que ça existe et qu'aujourd'hui, autour de moi, dans le Grand Est, il n'y a pas une seule personne qui n'a pas un proche qui a été touché de près ou de loin par ce virus. Donc, dans ce contexte, oui, restons vigilants et cette vigilance, elle passe par ces mesures-là, bien sûr. Même si on a l'impression qu'elles sont injustes, même si on a l'impression qu'elles sont difficiles, voilà, plus on le fera bien, plus ces mesures seront courtes. Donc, ça, c'est important aussi de retenir ça.
Je vous remercie beaucoup, docteur Royan. Je vais vous laisser continuer de vous reposer avant de repartir demain pour de nouvelles batailles.
Exactement. Du côté du... Merci à vous de m'avoir permis de m'exprimer. Et puis surtout, prenez soin. Prenez soin de vous, des autres, prenez soin.
Bonjour aux vôtres du côté de Strasbourg et de Mulhouse. Mont-de-Marsan, j'espère un jour qu'on pourra s'y recroiser le plus rapidement possible. Ça voudra dire, évidemment, oui. Voilà, tout ça.
À bientôt. Prenez soin de vous tous. Au revoir.
Merci beaucoup, docteur. Au revoir.